Le jour du meurtre, 3 avril 1999. La petite ville de Mount Pleasant connaissait une agitation inédite. Tout le monde questionnait tout le monde à la recherche d'informations. D'un commerce à l'autre, la conversation était la même. Que ce soit au Season, le café réputé pour ses petits déjeuners, dans la librairie de Cynthia Lockhart ou dans le magasin de chasse et pêche de la famille Carré, les clients s'interrogeaient mutuellement. Vous savez quelque chose? Non, et vous? Vous êtes allé voir ce qui se passe à Grey Beach? Ma femme y est allée, mais tout est bloqué par la police. Tout ce qu'on savait à Mount Pleasant, c'était qu'une femme avait été retrouvée morte à Grey Beach. C'était Lorraine Donovan, la fille de Janet et Mark Donovan, les propriétaires du magasin d'alimentation générale, qui avait découvert le corps en faisant son jogging. À mesure que cette nouvelle circulait, tout le monde convergeait chez Donovan Alimentation Générale, soi-disant pour faire ses courses, mais surtout pour se renseigner. Le magasin ne désemplissait pas, s'en devenait presque la cohue. Les clients arrêtaient Mark ou Janet Donovan pour leur demander sans détour « Est-ce que Lorraine est là ?»« Non. » »« Vous avez des infos sur ce qui s'est passé à Grey Beach ?»« Je n'en sais pas plus, Lorraine est toujours avec la police. Pardon, mais il y a beaucoup de clients à servir. Ah, si vous apprenez quelque chose, surtout dites-le nous. » Tandis qu'à Mount Pleasant, les curieux devaient rester avec leurs interrogations, au même moment, à Grey Beach, les enquêteurs esquissaient des réponses. La forêt alentour et les rives du lac étaient passées au peigne fin par une cinquantaine d'agents issus des polices locales et de la police d'État. Sur la plage, les équipes médico-légales s'activaient autour du corps qui gisait toujours face contre terre. Et sur le parking, les experts de la police scientifique inspecter la décapotable bleue. D'après la plaque, la voiture appartenait à une jeune femme de 22 ans, Alaska Sanders. Sur le siège passager, il y avait un sac à main contenant notamment son permis de conduire. L'évocation de ce nom avait suscité l'émoi parmi les policiers locaux. Alaska était une jeune femme de Mount Pleasant. Faudrait voir son visage pour vous confirmer que c'est bien elle, expliquait le chef Mitchell à Gaal Wood Evans, pendant que le médecin légiste manipulait le corps inerte. « Que pouvez-vous nous dire à son sujet ?» demanda Vance. « Une fille sans histoire. Elle s'est installée ici il y a quelques mois avec son copain. Elle travaillait dans une station-service proche. « Comment la connaissez-vous ? » ?»« À Mount Pleasant, tout le monde connaît tout le monde. » Ses premiers relevés terminés, le médecin légiste fit basculer le cadavre et le retourna, révélant le visage de la victime. En la voyant, le chef Mitchell lâcha un juron. Plusieurs policiers locaux rappliquèrent et une rumeur s'éleva. « C'est elle ?» demanda Gaal Wood à Mitchell. « Oui. » Gaal Wood et Vance s'approchèrent du corps. « Alors, Doc ?» demanda Vance au médecin légiste. « Vous me connaissez, sergent, je n'aime pas me prononcer avant l'autopsie. Mais ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que la mort remonterait au milieu de la nuit, 1 ou 2 heures du matin. » Elle est vraisemblablement due à un coup porté à l'arrière du crâne. La victime présente une plaie importante au niveau de l'occiput. L'ours n'y est pour rien. Donc c'est bien un meurtre. Ça, c'est sûr et certain. Elle a reçu un coup avec un objet contondant. La suite, je vous la livrerai une fois que j'aurai fait l'autopsie. Et quand est-ce que ce sera? Le plus rapidement possible. C'était pas une réponse, fit remarquer Vance. Pour moi, si, s'amusa le légiste. Gaal Wood et Vance restèrent un moment silencieux à contempler le cadavre. Une voix les interpella soudain. « J'ai horreur des meurtres dans les petites villes, ce sont toujours des histoires sordides. » C'était le capitaine Maurice Lansdane, le responsable de la brigade criminelle de la police d'État. « Qu'est-ce que vous faites là, capitaine ?» demanda Vance. « Je croyais que vous étiez en congé. »«
Jamais quand c'est le bordel, » répondit Lansdane.
Le grand chef, l'expression désignait le chef de la police d'État du New Hampshire, poste que finirait d'ailleurs par occuper Lansdane quelques années plus tard,
veut savoir ce qui se passe et m'a demandé un point de situation. Qu'est-ce que vous avez?
Gaal Wood commença son rapport.
La victime est une jeune femme de 22 ans qui s'appelait Alaska Sanders. Elle était originaire de Salem, Massachusetts, morte cette nuit d'un coup porté à l'arrière du crâne. Vance poursuivit.
On a retrouvé sa voiture sur le parking de la plage. Elle n'était pas verrouillée. Il y a un sac de voyage contenant quelques vêtements sur la banquette arrière et sur le siège passager son sac à main.
Crime crapuleux ? Demanda Lansdane.
J'en doute, répondit Galwood. On a retrouvé un message de menace sur la victime. Une phrase tapée à l'ordinateur. Je sais ce que tu as fait.
Une vengeance ?
Peut-être. En tout cas, le sac de voyage laisse penser qu'elle partait quelque part, ou qu'elle fuyait quelque chose.
Je vais obtenir les coordonnées de ses parents, indiqua alors Vance. Je voudrais les prévenir rapidement. C'est une petite ville. Les flics locaux sont sûrement bavards. Je ne voudrais pas que sa famille la prenne par les infos.
Vous avez raison, acquiesça Lansdane. Je vous laisse bosser.
Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ours? Tout le monde m'en parle depuis tout à l'heure.
Et le corps a été découvert par une joggeuse qui a surpris un ours en train de dépecer le cadavre, expliqua Galwood.
Lansdane eut une moue dégoûtée.
Vous avez parlé à la joggeuse? Demanda-t-il.
Pas encore. Elle nous attend à la station-service voisine. On va aller lui parler.
À cet instant, un policier vint les chercher.
« On vous réclame dans la forêt » annonça-t-il. « Ils ont trouvé quelque chose. Venez, suivez-moi »
Galwood, Vance et Lansdane emboîtèrent le pas aux policiers. Ils s'engagèrent sur un sentier forestier. Les bois étaient baignés de lumière. Ils serpentèrent entre les fougères et les troncs centenaires jusqu'à arriver à une caravane abandonnée, dévorée par les ronces et les broussailles, devant laquelle patientait une troupe de policiers.
« On n'est pas entré, » expliqua l'un d'eux. « On a juste jeté un œil par la porte entrouverte. »
« Et ?» demanda Galwood.
« Regardez-vous-même, »
lui suggéra le policier en lui tendant une lampe torche. Les fenêtres de la caravane étaient obstruées, et lorsque Galwood passa la tête dans l'habitacle, il n'y vit d'abord que l'obscurité. Puis dans le faisceau de sa lampe, il découvrit un capharnaüm.
Matelas éventrés, déchets, mégots de cigarettes, mais surtout, sur le sol, un pull-over maculé de traces pourpres.
Galwood s'autorisa à faire un pas à l'intérieur de la caravane pour s'approcher davantage. Le vêtement était taché de sang.
« Il faut faire venir immédiatement la police scientifique et passer cet endroit au peigne fin », décréta Galwood.
Vance et lui explorèrent ensuite les environs. À une dizaine de mètres de là, ils découvrirent une piste assez large pour laisser passer un véhicule emprunté par les gardes forestiers. Vance aperçut au sol les débris d'un phare arrière d'un véhicule et remarqua un tronc qui portait les traces d'un choc récent.
« On dirait de la peinture noire », dit-il en observant de près la traînée sombre sur l'écorce.
Il était midi lorsque Robbie et Donna Sanders reçurent l'appel du sergent Matt Vance. La conversation terminée, les deux parents restèrent accrochés au combiné, hébétés, détruits. Leur monde s'effondrait. À 200 kilomètres de là, sur le pré fleuri qui séparait la forêt de Grey Beach de la route 21, Vance referma le clapet de son téléphone portable et retourna auprès de Galwood, qui l'attendait adossé à leur véhicule banalisé.
Toutes ces fleurs de merde par une journée pareille, pesta Vance en piétinant volontairement une grappe d'érythrone d'Amérique. « Les parents d'Alaska nous rejoindront au quartier général en fin de journée. »«
Merci de t'en être occupé, » lui dit Galwood en lui donnant une tape fraternelle sur l'épaule.
« C'est bien normal, Perry. T'as une môme sur le point d'arriver. Tu ne devrais même pas être là à voir cette horreur. »«
C'est le boulot. » »«
À ce propos, le chef Mitchell m'a donné l'adresse d'Alaska à Mount Pleasant. » Un appartement sur la rue principale dans lequel elle vivait avec son petit copain. Le copain en question travaille apparemment dans un magasin de chasse et pêche qui se trouve juste en dessous. D'ailleurs, il y est en ce moment.
Commençons par la station-service. Nous irons à Mount Pleasant ensuite, suggéra Vance.
La Chevrolet Impala remonta la piste de terre jusqu'à la route 21, où Galwood dut enclencher sa sirène pour se frayer un chemin parmi les policiers, les badauds et les journalistes. Il bifurqua à gauche en direction de Mount Pleasant. Un kilomètre plus loin, ils arrivèrent à la station-service où tout avait commencé ce matin-là. Une voiture de la police locale était garée devant. À l'intérieur du magasin, ils trouvèrent Lorraine Donovan, la joggeuse, et Lewis Jacob, le pompiste, en pleurs, qui se réconfortaient mutuellement sous le regard impuissant de l'agent Peter Phillips. En voyant les policiers, Lewis Jacob s'écria «
Est-ce que c'est vrai? C'est Alaska? C'est Alaska qui est morte?
Gaal, Wood et Vance échangèrent un regard. L'information était déjà en train de circuler.
C'est malheureusement exact, indiqua Gaal Wood.
Morte comment? Est-ce qu'elle a été bouffée par un ours? C'est ce que Peter m'a dit. Mais les ours, ça bouffe personne. Surtout pas les ours noirs qu'on a par ici. L'automne dernier, j'en avais deux qui venaient sans cesse fouiner dans les poubelles. Je peux vous assurer qu'une bonne gueulante suffisait à les faire déguerpir.
Elle n'a pas été tuée par un ours, dit Vance.
Mais alors comment est-elle morte?
Vance éluda la question. Quand avez-vous vu Alaska pour la dernière fois? Demanda-t-il.
Et hier soir, je suis parti d'ici à 19h30. Elle devait fermer le magasin à 20h.
Et elle l'a fait?
Oui, quand je suis arrivé ce matin, l'alarme était mise. Tout paraissait normal.
Comment vous a-t-elle semblé hier?
Pareil à elle-même, rien de spécial. Vous savez, elle était toujours aimable, toujours un mot gentil, toujours d'humeur égale. C'était une merveille, cette fille.
Avait-elle des projets pour la soirée? A-t-elle évoqué quelque chose?
Elle a dit qu'elle avait un dîner romantique, ce sont ses mots.
Avec son copain?
Je lui ai posé la question, elle n'a pas répondu. Je sais qu'il traversait des hauts et des bas en ce moment.
Vous avez parlé avec Walter? Walter est le petit copain, c'est ça?
Oui, Walter Carré.
Nous y allons ensuite. Gaal Wood leva les yeux au plafond et avisa une caméra de surveillance.
Est-ce qu'on peut jeter un œil aux enregistrements vidéo?
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je sais pas manipuler ce truc pour revenir en arrière,
avoua Lewis Jacob.
Jamais eu besoin, mais je sais qu'on peut le faire. C'est mon neveu qui m'a installé ce machin. Je l'ai appelé pour qu'il vienne. Il est en week-end dans le Vermont.
On va embarquer le disque dur, si vous le permettez.
Embarquez tout ce que vous voulez, sergent.
Jusqu'au meurtre d'Alaska Sanders, Mount Pleasant n'était que douceur de vivre et sérénité. C'était une charmante bourgade à la frontière avec le Maine et à 2 heures de route du Canada, entourée de la forêt nationale de White Mountain. La rue principale était bordée de grands érables qui se couvraient de neige l'hiver et offraient une ombre généreuse l'été. De part et d'autre de ces larges trottoirs, des commerces réputés dans toute la région. Donovan Alimentation Générale, dont les denrées, sélectionnées avec soin, n'avaient rien à voir avec celles des supermarchés. La fameuse librairie Lockhart, tenue par Cynthia Lockhart, qui attirait de nombreux écrivains de la côte Est pour des séances de dédicaces. Carré Chasse et Pêche, tenue par la famille Carré, appréciée pour la qualité de son matériel et de ses conseils experts. Ou encore le bar sportif National Anthem, qui retransmettait les matchs des ligues nationales de football, baseball et de hockey, dont le patron était un grand amateur. Ce jour-là, sur cette même artère, les promeneurs cancanaient. La rumeur assurait que c'était Alaska Sanders qui avait été retrouvée morte. Plusieurs femmes de policiers tenaient l'information de leur mari. Soudain, tout le monde se tut. Et les regards suivirent la Chevrolet Impala banalisée, reconnaissable à son gyrophare aimanté sur le toit, qui remontait la rue. Le véhicule s'immobilisa devant le magasin d'alimentation générale Donovan. Le sergent Gaal Wood en sortit pour ouvrir la portière à Lorraine Donovan.
« Merci, sergent, » lui dit-elle.
« Courage, Lorraine. Si vous avez une question, vous avez ma carte. »
Elle acquiesça et s'engouffra dans le magasin en évitant les regards des badauds qui la scrutaient. À l'intérieur, elle se précipita derrière le comptoir pour retrouver sa mère qui la serra contre elle.
« Ma chérie! Oh, maman! C'était affreux !»
Aussitôt, les clients présents pressèrent Lorraine. « Est-ce que c'est Alaska qui est morte? Qu'est-ce que tu as vu? Il se passe quoi à Grey Beach ?» Janet Donovan entraîna sa fille dans la réserve à l'abri de la cohue. Mark Donovan, le père, dut sévir pour que les clients restent à leur place et chassa ceux qui n'étaient pas venus faire leurs courses. Dans l'arrière-boutique, Janet Donovan servit un café à sa fille et l'aida à s'asseoir sur une chaise. Eric, le frère aîné de Lorraine, qui travaillait au magasin avec ses parents, les rejoignit.
« C'est bien Alaska qui est morte, » lui dit alors Lorraine d'une voix tremblante. « Quoi ?» balbutia Eric sous le choc. « Je n'arrive pas à le croire. » Et cette scène sur la plage, Eric, c'était terrible. Je ne l'ai pas reconnue sur le moment. Je n'ai d'ailleurs pas vu grand-chose, heureusement.
Alaska est morte ? Répéta Eric, incrédule.
Il faut que j'aille voir Walter. Les flics se rendent chez lui maintenant.
À quelques dizaines de mètres de là, la Chevrolet Impala banalisée s'est égarée devant Carré chasse et pêche. Lorsque derrière le comptoir, Walter Carré vit les deux hommes entrer, leur insigne à la ceinture, il s'effondra. La rumeur disait vrai. Alaska était morte.
Walter s'était réfugié dans l'arrière-boutique pour échapper au regard des curieux agglutinés devant le magasin. C'était un homme d'une trentaine d'années, au physique robuste. On aurait pu croire que le vieux fauteuil dans lequel il était recroquevillé allait s'effondrer sous son poids. Il répétait hagard
« Assassiné ? Assassiné ? Mais qui a pu faire une chose pareille ? Et pourquoi ?»
Il lui fallut un bon moment pour être capable de répondre aux questions des enquêteurs.
« Vous habitiez ensemble, non ?»
demanda alors Vance.
« Ouais, un petit appartement juste au-dessus de la boutique. »«
Vous ne vous êtes pas étonné de son absence ?» interrogea Galwood.
« Elle était partie pour le week-end. »«
Partie où ça ?»«
Chez ses parents, je crois. Vous leur avez parlé ?»«
Oui, » répondit Vance. « Ils n'avaient pas l'air au courant de sa venue. »
Walter Carré se passa les mains dans les cheveux en répétant
« C'est pas possible, c'est pas possible. »«
Walter, » interrogea Vance, « quand avez-vous vu Alaska pour la dernière fois ?»«
Hier, en fin d'après-midi. »«
Et ?» s'enquit Vance. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?»«
Ça, oui. Je peux même dire qu'elle n'était pas dans son état normal. Je suis remonté brièvement à l'appartement vers 17h. J'avais froid et je voulais chercher un pull. En entrant, je suis tombé sur elle. J'étais étonné car elle travaillait à la station-service jusqu'à 20h en principe. Je pensais qu'elle m'avait fait une surprise.
Tu parles d'une surprise. »
La veille, 17h15. Walter ouvrit la porte de l'appartement et tomba sur Alaska. Elle portait un pantalon moulant noir, une chemise en dentelle qui laissait deviner son soutien-gorge et ses bottines noires qui la rendaient tellement désirable. Elle se contemplait dans le grand miroir de l'entrée.
« Alaska ?» sourit Walter, pensant qu'elle s'était apprêtée ainsi pour lui.
« Oh, tu es là ?»
dit-elle. À son ton, il comprit qu'elle ne s'attendait pas à le voir.
« Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Walter qui déchanta. « Et pourquoi es-tu habillé comme ça ?»«
Pour rien, je faisais un essai. »
Elle se déshabilla aussitôt et revêtit son jean et le polo de la station-service. Puis elle fourra ses vêtements et ses bottines dans un large sac en cuir.
« Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda Walter.
Elle le regarda avec dépit.
« Walter, je t'en prie, ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. »«
Mais qu'est-ce que je ne comprends pas ?»«
Je m'en vais !» « Je te quitte. »«
Quoi ?
Comment ça, tu me quittes ? Ça ne va plus entre nous, Walter. Et puis j'aspire à autre chose qu'à vivre au-dessus du magasin de tes parents. On va où ensemble ?
Et tu ne peux pas t'en aller ainsi, Alaska, pas sans m'avoir donné une chance. »«
Désolé. Et tu vas où ?
Je vais retourner chez mes parents, le temps de faire le point. »
« Ça s'est terminé comme ça, » expliqua Walter. « Elle a pris son sac et elle est partie. Je l'ai suivie jusqu'à la rue pour essayer de la dissuader. Elle ne voulait rien entendre. Elle est montée dans sa voiture et elle s'est tirée. »«
Et qu'avez-vous fait ?» demanda Galwood.
« Un client est arrivé devant la porte du magasin. Je devais y retourner. »«
Vous étiez seul au magasin ?»«
Oui, en ce moment, il n'y a que moi. Mes parents sont en vacances. Ils rentrent demain. »
« Donc, vous ne vous attendiez pas à ce qu'Alaska vous quitte ?»«
Non, on avait des hauts et des bas, comme tous les couples, mais de là à s'en aller sans crier gare. »«
Est-ce qu'elle avait quelqu'un d'autre ?» demanda Vance.
« Non, » répondit Walter, d'abord blessé par la question. « Enfin, j'en sais rien, je sais plus rien, tout cela est si irréel. »«
Et qu'avez-vous fait ?»«
J'étais coincé au magasin jusqu'à la fermeture. Je ne voulais pas fermer en avance. » Mes parents appellent de temps à autre, soi-disant pour prendre des nouvelles, mais c'est pour contrôler que je suis bien là. Ils me testent pour voir si je suis sérieux et prêt à prendre la relève. Ils disent que leur retraite dépendra de moi, vous voyez le genre de pression. Ah, bref, j'ai espéré qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue.
J'ai fermé le magasin, je suis monté chez moi. Je broyais du noir. Finalement, je suis sorti. Je rejoins mon copain Eric Donovan pour manger un hamburger et regarder le match de hockey au National Anthem. Je suis rentré assez tard. À quelle heure? Je ne sais plus, j'avais trop bu. Je me suis mis au lit, j'ai dormi jusqu'à midi. Êtes-vous allé à la station-service pour essayer de raisonner Alaska? Non. Pourquoi? Demanda Galwood. Si ma copine m'a quitté, j'aurais envie d'aller la trouver pour lui demander des explications. À quoi bon? Maugréa Walter. Alaska, quand elle était décidée. Et puis, je ne voulais pas me ridiculiser en la suppliant. Je ne me voyais pas me traîner à ses pieds devant tous les clients de la station-service. Vous vouliez jouer les durs, ironisa Vance. Walter haussa des épaules. J'ai essayé de l'appeler au moins 20 fois. Je l'ai bombardé de messages. Sur son téléphone portable, vous voulez dire? Demanda Galwood. Oui, bien sûr, sur son portable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retrouvé son téléphone, ni sur elle, ni dans sa voiture. On a retrouvé toutes ses affaires, sauf son portable. Walter, est-ce qu'on pourrait aller visiter votre appartement? Ah, évidemment. Le jeune homme les fit sortir du magasin par une porte de service. À côté de celle-ci, un escalier extérieur donnait accès à l'étage. Les trois hommes pénétrèrent dans l'appartement où Galwood et Vance entreprirent une fouille sommaire. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» demanda Walter. « Rien particulier. C'est la procédure dans ce genre de situation. »« Vous voulez dire un meurtre ?»«
Oui. »«
Où sont les affaires d'Alaska ?»«
Dans la chambre à coucher. »
Walter Carey conduisit les deux policiers dans la pièce. Galwood avisa une caméra en piteux état sur une étagère.
« À qui appartient cette caméra ?»«
À Alaska. »
Galwood ouvrit le compartiment à cassette et constata qu'il était vide. Il demanda «
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette caméra ?»«
J'en sais rien, » répondit Walter. « Alaska m'a dit qu'elle l'avait fait tomber. Elle ne l'utilisait jamais de toute façon. C'était pour ses castings. Elle rêvait de devenir actrice. Elle avait même une agente à New York et tout ça. Mais elle avait mis son projet de côté depuis son installation ici. »
« Si elle ne l'utilisait jamais, comment est-ce qu'elle l'a pareillement abîmé ?» demanda Vance.
« J'en ai vraiment aucune idée, » avoua Walter.
Galwood ouvrit les armoires et inspecta les vêtements.
« Est-ce qu'il manque des affaires ?»«
Difficile à dire. Comme je vous l'ai indiqué, elle est partie avec un sac. Il y avait quelques fringues dedans. »
Galwood souleva une pile de pantalons et s'arrêta soudain. Il venait de trouver deux autres messages similaires à celui découvert dans la poche d'Alaska.
« Je sais ce que tu as fait. »«
Est-ce qu'Alaska était menacée ?» demanda Galwood.
« Non, pourquoi ?»«
Parce qu'elle recevait des menaces, » répondit Galwood en montrant les messages.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Walter. Il avait l'impression de perdre pied.
« Alaska ne vous en a jamais parlé ?»«
Eh non, jamais. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. »
À la fin de l'après-midi, à Gray Beach, l'agitation était retombée. Le corps d'Alaska avait été emporté, les balises autour de la plage enlevées. Les véhicules de police s'en allaient les uns après les autres. Les rangs des journalistes et des badauds étaient clairsemés. Il n'y avait plus rien à voir. Galwood et Vance, eux, étaient retournés à Concord, au quartier général de la police d'État du New Hampshire. Ils y sacrifièrent au rituel immuable qui marquait le début de chaque nouvelle affaire. Ils tirèrent un grand tableau aimanté derrière leurs deux bureaux et commencèrent à y déposer les premiers éléments de l'enquête. Galwood inscrivit au feutre rouge « Affaire Alaska Sanders ». Et juste en dessous, Vance y apposa les photos prises par la police scientifique qu'on venait de leur apporter. On y voyait le corps d'Alaska sur la plage, l'ours mort à ses côtés, ainsi que des gros plans à peine soutenables du visage de la jeune femme. Il y avait des photos de la note « Je sais ce que tu as fait » et de la décapotable bleue, du sac en cuir retrouvé dans le coffre avec à l'intérieur des vêtements et un nécessaire de toilette. Il y avait également quelques vues générales de la forêt. La caravane abandonnée, le pull-over taché de sang sur le sol, un pull-over de couleur grise sur lequel on pouvait lire « MU », la piste dans la forêt, l'arbre marqué de peinture noire, les débris du phare arrière. Un coup de téléphone du comptoir d'accueil les interrompit. les parents d'Alaska Sanders étaient arrivés. « Je m'en charge !» proposa Vance à Gaalwood. « Tu devrais rentrer chez toi. » Gaalwood consulta sa montre.
« Je ne vais pas jouer les fonctionnaires alors qu'on a un meurtre sur le dos.
Et tu sais comme moi qu'il ne se passera rien avant demain, et encore. Le légiste ne fera l'autopsie que lundi. Je vais emmener les parents d'Alaska à la morgue pour qu'ils puissent identifier leur fille. Toi, rentre t'occuper d'Hélène et de ton déménagement. Surtout, ne la laisse pas porter des cartons. Je passe tout à l'heure si tu as besoin d'un coup de main. »
Gaalwood rentra chez lui. En se garant devant sa nouvelle maison, il se sentit immédiatement apaisé, comme lavé des émotions de la journée. Le moteur éteint, il resta quelques minutes à admirer sa nouvelle demeure, petite mais coquette. Hélène et lui avaient eu le coup de foudre 3 mois plus tôt. Depuis le début de sa grossesse, ils cherchaient à quitter leur appartement trop étroit et à acheter une maison. Ils allaient bientôt être 4, ils avaient besoin de place. Lui voulait un bout de jardin. Ils avaient multiplié les visites en vain. Rien ne leur plaisait, jusqu'à cette maison. C'était un jour de pluie, mais malgré le mauvais temps, la maison de l'extérieur leur plut aussitôt. Au moment où ils y avaient pénétré, c'était devenu une évidence. Ils imaginaient ces lieux débordants de vie. Pour couronner le tout, le prix était imbattable car il fallait faire des travaux de réfection. 10 jours plus tard, ils signaient l'acte d'achat. 1 mois après, les rénovations débutaient, mais comme toujours, les travaux avaient pris du retard, et ce n'était finalement qu'une semaine plus tôt, à quelques jours de l'accouchement, qu'ils avaient pu emménager. Gaalwood franchit la porte d'entrée. Un joyeux désordre de cartons régnait à l'intérieur. Mais il s'en fichait. Il était heureux. Hélène s'était assoupie sur le canapé. Il la réveilla tendrement. Elle l'attira contre son ventre rond.
« On est tellement bien dans cette maison, » dit-elle.
« Je sais. Où est Malia ?»«
Elle est chez ma mère. Elle dort là-bas ce soir.
Eh, »« Désolé, je n'ai pas eu le temps de t'appeler de la journée. »«
Ne t'en fais pas, j'ai bien imaginé que tu étais débordé. »«
On a un meurtre sur les bras. Une fille de 22 ans, retrouvée dans une forêt. »
Gaalwood s'efforça de chasser les images d'Alaska de son esprit.
« Et ta journée à toi ?» demanda-t-il à sa femme pour changer de sujet.
« Je suis allé dans cette boutique de décoration sur Isaac Street. Regarde ce que j'ai trouvé. »
Elle se leva et sortit d'un sac en papier une applique en fer forgé qui formait 3 mots reliés. « Joie de vivre. »
« C'est pour mettre dehors, à côté de la porte d'entrée, » expliqua Hélène.
« Et qu'est-ce que c'est censé signifier ?»«
Nous. Nous, dans cette maison. »
Gaalwood sourit. Après le dîner, il fixa cette décoration murale sous le porche de sa maison. Il venait de terminer lorsqu'un véhicule se gara dans son allée. C'était Vance.
« Alors ?» demanda Gaalwood à son coéquipier quand celui-ci lui rejoint sous le porche.
« Les parents sont anéantis. On pouvait s'en douter. Ils ont formellement identifié leur fille. »
Gaalwood alla chercher 2 bières. Il s'assira même les marches pour boire. Vance alluma une cigarette.
« Jolie baraque, » dit-il.
« Merci.
Et quelle idée de déménager à quelques jours d'un accouchement ?»
Vance observa sur le mur la décoration en fer forgé qui accueillerait désormais les visiteurs.
« Joie de vivre, » lut-il.
« C'est une idée d'Hélène, » expliqua Gaalwood.
« J'aime ça, » approuva Vance. « C'est une invitation à ne pas ramener ici toutes les horreurs auxquelles tu seras confronté. »
Les 2 hommes restèrent silencieux. Vance termina sa cigarette et en ralluma aussitôt une autre. Il était nerveux. Après quelques bouffées, il considéra qu'il était temps de partager sa décision avec son coéquipier. Il y avait longtemps qu'il y songeait, mais ce matin-là, en découvrant le corps d'Alaska, il avait su que le moment était venu.
J'ai commencé ma carrière comme flic à Bangor, dans le Maine. Une de mes premières affaires était une môme de 17 ans qui s'était fait assassiner en rentrant à pied d'une soirée chez une copine. Gabby Robinson, c'était son nom. Je ne l'oublierai jamais. On n'a jamais retrouvé celui qui avait fait ça. Ce matin, quand j'ai vu ce corps sur la plage, ça a fait remonter plein de mauvais souvenirs.
L'affaire Alaska Sanders sera ma dernière enquête, Perry. On va mettre la main sur celui qui a fait ça. On va se le faire, je t'en fais la promesse.
Je veux pouvoir regarder les parents d'Alaska et leur dire que justice a été rendue. Et ensuite, j'arrête.
Je me présentais avec beaucoup d'avance sur le seuil de la maison des gars à Lowood, avec des fleurs, du vin et un cadeau pour Lisa. Comme à chacune de mes visites, au moment de sonner, mon regard s'arrêtait sur l'enseigne en fer forgé qui accueillait les visiteurs, joie de vivre.